Vous écoutez Marc-André Leclerc, Cube Radio. Cube Radio.
Très heureux de retrouver Philippe-Vincent Foisy, que vous connaissez bien ici à l'antenne de Cube Radio. Philippe-Vincent, bonjour.
Salut Marc-André.
C'est quand même assez spécial, Philippe-Vincent, faut le dire à nos auditeurs, là, de se retrouver ensemble comme ça, de se parler à Cube Radio, parce qu'on s'est connus là, à une autre époque, là, sur la colline parlementaire, plus jeunes, plus fous tous les deux. Tu travaillais à l'époque là sur la colline comme correspondant, je travaillais là chez les conservateurs, donc c'est un grand plaisir de te... d'être avec toi ce matin pour
C'est plus le fun quand je t'appelle ces temps-ci que quand je t'appelais à l'époque. Hein?
Non, effectivement. et ça, là, il n'y a rien de pire pour un employé politique quand un journaliste t'appelle, parce que c'est rarement pour te demander des nouvelles de tes enfants ou qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine. Oui, on peut en parler, puis les relations sont amicales, mais surtout quand ça sonne un vendredi, 16h, c'est parce que tu as probablement un député qui s'est mis les deux pieds dans les plats. Philippe-Vincent, j'en parlais tout à l'heure, on a vu là au cours des dernières heures là, que le prix de l'essence là, a commencé à baisser. Une bonne nouvelle, sauf que quand on écoute les spécialistes, là, ils nous disent que c'est comme une espèce de répit. Est-ce que tu penses que... Bon, il y a toute cette idée-là, puis Joe Biden est allé de ce côté-là, du côté des États-Unis, Doug Ford également, un gel de taxes. Est-ce que ça vaut la peine de faire un gel de taxes?
Juste peut-être pour mettre les gens un peu dans le contexte, moi je suis le genre de personne qui va faire mon épicerie en fait qui fait plus qu'une épicerie depuis déjà quelques semaines parce que ça coûte trop cher, puis qui aime ça aller dans une épicerie qui donne un rabais d'essence à la fin. Donc vous comprenez quand
toi,
même
tu
que
le prends, là.
Moi je le prends, le rabais, je le demande, et je le demande même quand la promotion est finie, juste au cas où peut-être qu'il pourrait m'en donner un de plus, parce qu'il va falloir que je fasse le plein un moment donné quand je vais faire la route. Puis on s'entend, là, c'est 6 à 9 sous, c'est pas la fin du monde, ça me donne moi, de quoi 4-5 $ sur ma tank, parce que j'ai une petite voiture qui consomme pas nécessairement beaucoup. Et moi, mon enjeu avec ce rabais d'essence-là, c'est que on en donne un petit peu à tout le monde et on n'en donne pas suffisamment à ceux qui en ont vraiment besoin. Parce que si, par exemple, on fait un gros chiffron là, à 7 sous, par exemple, de gel de taxe là, qu'on pourra enlever. Là, en Ontario, c'est à peu près 6 sous. Tu sais, sur une tank de 100 litres, ça reste que c'est 6 $. Là. C'est pas énorme à chaque plein. Tu vas me dire, oui, mais ceux et celles qui font le plein 2-3 fois par jour, qui conduisent des trains, des camions, là, c'est vrai qu'eux autres en ont besoin. Les agriculteurs qui en ont beaucoup besoin, là aussi, en ont vraiment besoin. Donc, ces gens-là sont un peu moins aidés, alors qu'ils pourraient être davantage aidés. Les gens ici, par exemple, là, moi, je suis à Montréal, là. Ben, les gens à Montréal, là, au lieu d'avoir un rabais sur leur litre d'essence, devraient avoir un incitatif de plus, par exemple, à prendre le vélo, à prendre le transport en commun. Il est là, le transport en commun. Encourageons les gens à le faire. Je peux comprendre si tu vis à Chibougamau, si tu vis à Robertval.
Robertval, c'est tranquille. Je peux te dire qu'à Robertval, le métro, c'est tranquille. Là.
Ah non, ben c'est ça. Hein? Puis le temps de passer à créer un métro puis un tramway, si on regarde ce qui se passe à Québec, ça va être long avant qu'il y en ait un à Robertval. Je suis désolé. Mais tu comprends qu'il y a comme des façons de faire qui serait plus adéquate pour, après ça, encourager des comportements qui vont faire en sorte qu'on va enlever un peu notre dépendance au pétrole. Puis l'autre problème, en ce moment, avec pas mal tout ce qu'on voit qui coûte de plus en plus cher, c'est qu'il y a une demande importante et l'offre n'est pas suffisante. Avec les sanctions, par exemple, de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, sur le pétrole russe, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde qui demande du pétrole, puis on n'arrive pas à fournir à tout ce monde-là du pétrole. Alors, si tu baisses un peu le prix, il y a des gens, par exemple, comme moi, qui ont arrêté de prendre la voiture en ville depuis un mois à peu près, pourraient se dire, ben là, ça va coûter un peu moins cher. Il y a peut-être temps que je retourne prendre mon auto. Donc, la demande, elle, va revenir.
Oui, mais les chiffres qu'on voyait, là, Philippe-Vincent, dans les dernières semaines, c'est que les gens n'ont pas nécessairement changé leur consommation d'essence. Moi, je pense pas que les gens non plus, mais je pense pas non plus présentement, là, même avant à 2,15 de litre, je pense pas que les gens consommaient de l'essence pour le fun d'aller faire la bonne vieille tournée du dimanche. Je pense pas que c'est pour ça qu'on voit pas l'impact. Parce que moi, personnellement, mon véhicule, je le prends pour aller au bureau, pour aller au studio de TVA pour enregistrer LCN, pour aller à la garderie. Mais tu sais, je veux dire, j'ai pas baissé ma consommation depuis qu'il était à 2,15, 2,16 ou 2,20, peu importe la région. Mais parce que j'utilisais mon véhicule pour le minimum, je faisais pas.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, je fais pas.
Mais moi, j'ai des collègues qui me disaient, je veux rester en télétravail parce que le gaz devient trop cher. Puis parce qu'ils vivent en banlieue, parce qu'ils ont une heure à peu près de route à faire aller, une heure à faire retour. Pour ces gens-là, si on pouvait leur donner un incitatif, par exemple, prendre l'autobus ou donner plus de réseaux d'autobus ou augmenter le nombre de voyages d'autobus dans les heures de pointe. Il y en a beaucoup qui choisiraient de prendre l'autobus, mais qui prennent pas l'autobus en ce moment parce que l'offre n'est pas assez là. Donc, si au lieu de donner, par exemple, 7 $ par plein, par personne, on était en mesure d'offrir plus de voyages d'autobus pour certaines de ces municipalités-là, on aurait un avantage beaucoup plus important à long terme sur les habitudes et aussi sur la consommation de pétrole. Donc, c'est juste là où je trouve que offrir un congé de taxe, c'est une solution qui est politique facile, qui est politiquement payante à court terme, mais en bout de ligne, pour la structure de l'économie, ça donne rien. Puis même que ça peut être un peu contre-productif, un peu comme le chèque de 500 $. Le chèque de 500 $, il était bon pour certaines personnes qui en avaient besoin. Pour d'autres, ça a été mené soit en épargne ou soit en consommation. Puis là, tu augmentes la consommation, fait, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça augmente l'inflation. Donc, tu deviens un peu contre-productif dans une mesure qui visait à aider les gens à lutter contre l'inflation.
Mais là, Philippe Vincent, on est à l'aube d'une élection, là. Tu sais, je veux dire, là, on va passer juillet après ça. Pour toi, est-ce que tout ça, là, tu sais, l'inflation, le prix de l'essence, comment on peut aider la famille québécoise moyenne, c'est-tu le ballot question? C'est-tu la question de l'urne? Tu sais, on dirait que la question de l'urne a changé 100 fois, là, des derniers mois, là. Tu sais, avec la santé, avec le nationaliste, là, on est comme revenu, tu sais, à l'inflation, au coût de la vie.
Ah, ben, tu sais, en ce moment, c'est le gros sujet. En ce moment, c'est ce qui préoccupe le plus les gens. J'ai l'impression que ça va se poursuivre. Puis comme tu le dis, par contre, je vais mettre un petit bémol ici, ça se peut que ça change encore. Ça se peut qu'il y ait une autre crise dans les hôpitaux. Je veux dire, en ce moment, ça va pas super bien dans les hôpitaux non plus. Les urgences sont débordées. Il y a une pénurie de personnel là aussi. Il y a des gens qui prennent des vacances cet été. Donc, ça se peut que la santé revienne. Mais comme le coût de la vie est tellement important, tu sais, je veux dire, comme des gens comme nous, le vivre à tous les jours en allant à l'épicerie, quand on va faire le plein, quand on fait des emplettes, on voit le café du coin, le café augmenté, on le voit un peu partout, ce coût de la vie-là. Je fais juste imaginer pour ceux et celles qui ont eu de la difficulté à se loger au cours des derniers mois, qui ont dû déménager, qui n'ont pas de logement ou qui ont dû accepter une hausse de logement assez importante pour garder leur logement, qui vont faire face à une hausse des taux d'intérêt, donc des paiements hypothécaires. C'est tout ce monde-là le sent quotidiennement et cette pression qui s'ajoute alors qu'on était déjà pour plusieurs pris à la gorge dans nos finances. Mais ça fait en sorte qu'on ne voit pas à quel moment elle sera relâchée, cette pression-là. C'est pas une hausse de salaire dans 6 mois qui va faire en sorte que peut-être qu'on va être en mesure d'y arriver. Donc, c'est sûr que cette pression-là, les gens la sentent. Elle va continuer de se vivre. Elle risque malheureusement de s'amplifier. Et c'est pour ça que si aujourd'hui, on se disait, on a un petit 2 à mettre parce qu'on peut pas mettre plus sur un pari sur quelle sera la question de l'urne, j'ai l'impression que ça en fera partie et ça va peut-être même être la question dominante.
Oui, puis là, on parle d'inflation, prix de l'essence, coût de la vie. Tu parlais de l'épicerie, là. Et là, qu'on voit là sur la page couverture, ce qui se passe du côté de Granby, la fromagerie Agropure qui est en grève depuis jeudi. Et là, en 4-5 jours, là, 2 millions de litres de lait à la poubelle. Là, ça frappe, là, parce que tu dis, justement, ça coûte cher. On est prêt avec des prix qui augmentent, mais pendant ce temps-là, il faut se débarrasser de 2 millions de litres de lait.
Non, mais ça, c'est insultant, sincèrement, de savoir que le lait qui coûte de plus en plus cher, que tout le monde ou presque consomme au Québec, surtout si vous avez des enfants, qu'on se dit, ben, ce lait-là aurait pu être donné, aurait pu être vendu, aurait pu être. C'est un peu hallucinant de voir encore au Québec, malgré la gestion de l'offre, ou à cause de la gestion de l'offre, on doit jeter ces 2 millions de litres-là. Moi, puis je rejoins un peu ce que Sylvain Charlebois disait dans le journal ce matin, ça devient quasiment un bien public, là, le lait. Ouais. On a un système qui fait en sorte qu'on paye notre lait plus cher. Système qui permet à nos agriculteurs de gagner le juste prix. Et là, quand on a un petit problème dans cette chaîne-là, on est obligé de le jeter, de le gaspiller. On peut même pas en faire autre chose. On peut même pas offrir ce bien-là à la consommation parce qu'on veut justement s'assurer que le prix reste le même et que l'équilibre du marché soit le même. Et avec Agropure, là, on a cette grève-là qui fait en sorte qu'on n'est pas en mesure de l'envoyer se faire transformer. Faudrait là-dessus que le gouvernement intervienne. Faudrait que là-dessus, que l'Union des producteurs agricoles intervienne, qu'il y ait quelqu'un dans cette chaîne-là qui dise ça n'a aucun bon sens. Ce lait-là, on va y trouver une solution. Ce lait-là, on va y donner un débouché, quitte à l'envoyer dans des banques alimentaires. Je veux dire, il manque de tout, les banques alimentaires, en ce moment. Donc, utilisez-le. Il est là, il a été produit, on a nourri ces vaches-là, il y a des gens qui ont travaillé pour le faire, puis je sais que c'est pas de gaieté de cœur que les agriculteurs le font, mais il y a un problème en ce moment dans le système, dans cette chaîne-là, réglez-le, pour qu'on puisse éviter d'avoir des urnes comme ça ce matin. Je veux dire, quand tu vois ça ce matin, puis 2 millions de litres qui sont jetés, puis appelez-moi, là, je veux dire, je vais en prendre quelques litres. Nous autres, on en consomme à plus savoir quoi faire avec le petit veau à maison. Fait que donnez-nous le lait, là, puis on va s'en occuper, puis on va être capable de le consommer comme il faut, puis on va sauver, en bout de ligne, une couple de 20$ pendant les prochaines semaines. Mm.
Philippe Vincent, autre dossier également qui ne disparaît pas de l'actualité, là, c'est tout ce qui se passe avec les passeports, avec les... Là, tu sais, on est passé des passeports aux aéroports présentement. Et là, on voit, là, il y avait un excellent reportage là, de Véronique Dubé, là, notre collègue du côté de LCN hier et ce matin, qui nous parle justement de tout ce qui est agent de bord, là, ils se font bardasser, là.
Ouais, là, je suis plus comme un message pour nous autres, là, les voyageurs, ceux qui ont décidé de partir en voyage cet été, je vous comprends. D'abord, il y a ceux qui disent comment ça se fait que tout le monde part en voyage en même temps, ils sont bien tata. Je veux juste rappeler au monde qu'il y a des vacances estivales scolaires. Tout le monde prend droit de prendre des vacances avec leurs enfants, c'est pas mal pendant l'été, en juillet, en août. C'est pas qu'on est tata, c'est pas qu'on est moins intelligent que les autres. C'est juste que c'est là que nos enfants sont en congé. Fait que c'est là qu'on prend nos vacances. C'est comme ça que ça fonctionne. À ceux qui voulaient juger un peu les gens qui partent en voyage en ce moment. Après ça, si vous partez en voyage, vous avez le luxe quand même de partir en voyage. Préparez-le. Ne partez pas avec 12 valises. Partez pas si vous êtes capable avec une valise que vous allez mettre en soute. Apportez-en juste une en cabine. Ça va vous éviter bien des tracas.
Ouais, mais ça, c'est difficile, là. Je pense, j'en parlais justement avec ma conjointe en fin de semaine, là. Tu sais, vas où, là? Tu sais, je veux dire, nous autres, les gars, c'est pas si mal, là. Mais,
justement, les enfants. Ta blonde, Marc-André.
Ouais, c'est ça. Je vais faire de la place pour ma blonde, mais avec deux enfants, 4 ans, 6 ans, comment je pars avec ça?
Avec
juste des
bagages cabines. C'est que si tu pars tout seul, si tu pars juste avec ta blonde, si vous êtes juste un couple, tu sais, il y a moyen aussi d'avoir moins de vêtements, puis de s'assurer que, regarde, au pire, tu porteras deux fois le même t-shirt là-bas, puis il y a personne tu vas le savoir parce qu'il n'y a personne qui te connaît. Mais le vrai message, c'est aussi, regardez, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le monde de l'aviation. Il manque d'agents de bord, il manque de monde pour enlever les bagages sur les pistes d'atterrissage, aéroports et autres. Ne commencez pas à leur casser du sucre sur le dos, à les insulter, puis à leur dire à quel point c'est des épais, des tarlats, leur cracher dessus, puis les frapper. Je disais, c'est un manque total de respect. Puis deux, le message que vous envoyez, c'est ben, oubliez ça le recrutement, oubliez ça le fait qu'on va aller chercher du monde pour éviter et combler la pénurie de main-d'œuvre, et vous vous nuisez encore une fois si vous agissez de la sorte. Alors, il y a comme tout ça à un moment donné qu'il faut se réveiller. Vous êtes quand même, pour la plupart, choyés de partir en voyage. Je sais qu'il y en a qui partent pour des raisons humanitaires, je sais qu'il y en a qui partent pour la famille, qui partent parce qu'ils ont quelqu'un de malade, mais dans la grande majorité des cas, c'est pour affaires ou pour tourisme ces temps-ci. C'est-à-dire, on prend un petit respire. Oui. On dit qu'on s'en va en voyage, ça va peut-être être plus long, ça va peut-être être plus compliqué. Mettez deux ou trois bobettes, deux ou trois t-shirts dans votre bagage de cabine au cas où. Puis profitez-en de votre voyage, vous êtes chanceux quand même de pouvoir partir.
Quand même, en fin de semaine, Philippe Vincent, Justin Trudeau, hein, s'est excusé.
Ben
hein,
oui,
pour,
il était temps.
On pense quoi de ça, là? C'est une bonne... Il s'excuse, mais encore une fois, il s'excuse pour... Ça s'en va nulle part ou
au moins on a l'impression qu'il reconnaît, au moins on a l'impression qu'il voit qu'il y a un problème, au moins on a l'impression qu'il est conscient. C'est dommage que ça y a pris de ses amis qui sont venus lui dire que ça n'avait pas de bon sens, alors que ça fait quoi 2 mois qu'on en parle. Peut-être que M. Trudeau devrait peut-être plus lire les journaux, écouter les nouvelles, ça lui ferait peut-être du bien pour savoir ce qui s'en vient puis ce qui se passe, mais... Moi, je pense encore que ça prend un tableau de bord. Je pense encore qu'il faudrait savoir exactement au jour le jour, on a combien de demandes, on va accepter combien de demandes, mais au moins, il y a une amélioration qui s'est faite dans la gestion là-bas et dans le tri des demandes de passeport. Puis espérons que ça puisse, disons, se faire de façon un peu plus humaine et un peu plus accélérée, qu'on puisse être en mesure de répondre à tout ça, mais aussi d'aider ceux et celles qui l'ont envoyé par la poste il y a 2, 3, 4 mois, puisque tout ce monde-là qui reste dans le noir, c'est pas bon pour, après ça, les lignes d'attente au moment où ces gens-là doivent partir.
Mais moi, je l'ai fait par la poste. Hein. Je veux dire, j'ai pas de voyage. Je voulais faire un voyage peut-être à l'extérieur.
Allume des lampions, Marc-André.
Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, on était prendre des photos. Les filles, ça va être leur premier passeport. Puis on a mis ça à la poste. Puis je veux dire, j'ai pas de date. T'sais, fait que là, j'ai comme, mais tu sais, c'est pas vrai que j'allais faire 2 heures, 2 minutes.
Non, mais écoute l'histoire au passeport. On est allé au passeport. Il y a une dame qui a envoyé sa demande par la poste. Mais là, la photo. Ça a tellement été long avant qu'ils ouvrent le dossier que la photo était expirée, fait qu'ils ont refusé sa demande.
Ah non.
Non, ça va bien.
Ouais, quand ça va bien. Hey, Philippe Vincent Foisy, c'est toujours un plaisir de jaser, puis on se reparle demain.
OK, salut.
Bye-bye.